Salut les garçons.
Salut Charline.
Ouais, pourquoi tu pleures, Alex?
Bah, en fait, on réécoute l'émission d'hier.
T'as réécouté tes brèves?
Oui.
Voilà.
Bah, ouais. C'est pas grave, tu feras mieux aujourd'hui.
Hein. Non, je pleure d'émotion.
Ah bon? Ouais.
Mais écoute, l'invité d'hier, Michael Gregorio.
J'ai vu la brève, je suis tombé sur l'article, c'est assez drôle.
C'était cette sorte.
Ah bah, Michael Gregorio, vous lisez les brèves aussi,
ça
vous.
Ça va,
on a invité qui lit les brèves, mais c'est trop beau,
ah
ça
là, va. Oui, quelle émotion, dis donc. En tout cas, c'était sans doute le meilleur moment de l'émission.
Hein. Ah bon?
On a tous fait n'importe quoi hier.
Non, hein. Bah, enfin, non.
Guillaume,
moi,
là, franchement, il faut tout entendre.
Je crois qu'on peut dire merci, Jacques Chirac.
D'où ça sort,
ouais,
ça?
Non, bah oui, c'est vrai. Non, mais de toute façon, il écoute peu l'émission, à mon avis.
Alex, qu'est-ce que c'est que cette phrase?
Le regard d'enfant de l'équipe, c'est moi.
D'où ça sort?
Alors, c'est pas entièrement faux, parce que.
Juliette, ouais. Juliette.
Et arrêtez d'envoyer des strings.
D'où ça sort?
Bon, Juliette, tu sais, vers 17h.
Elle commence l'apéro à 15h30.
Voilà, on est tous d'une incohérence.
T'as sorti les sons de tout le monde
et aucun de toi.
Moi aussi, tiens, je suis pas fière de tout ce que j'ai dit hier. Ouais.
Est-ce qu'on dit la bite à Dudule ou la bite de Dudule?
Effectivement, voilà, il me semble quand même. Voilà. Ouais.
Je rêve ou Charline s'est remise en question?
Putain, j'y crois pas, c'est la première fois en 4 ans. Mon avis, elle va pas bien.
Bonjour la France Inter et bienvenue dans l'ambiance start-up. Et voici la crème de l'information fouettée par la blague. Que sont devenus les députés qui ont été virés de l'Assemblée il y aura bientôt un an déjà? Certains ont bien du mal à retrouver un vrai travail dans la vraie vie. On les appelle les députés Pôle emploi.
Ce qu'il y a, c'est que vous êtes plus tout jeune.
À 37 ans.
Ah bon, là, il y a une erreur de frappe dans votre dossier marqué 57.
Toi, je fais 57.
Non, je... Je l'ai pas regardé.
Ce qui est chouette avec le Festival de Cannes, c'est qu'on entend parler partout des films qu'on ne pourra voir que dans 8 mois. Ou qu'on n'ira pas voir parce que 8 mois avant, on nous aura prévenu de ne pas y aller.
Bon, bah, moi, j'aimerais faire un film sur la lutte des Indiens canadiens et ils refusent l'installation d'une plateforme pétrolière sur leur terre. Bon, bah, comment je fais du cinéma avec ça? Je ne vais pas engager Alain Delon puis lui foutre du plume dans le cul pour faire un bien.
Ce soir, Les Herbiers, ce joli club au nom bucolique qui sent bon la France des petits ruisseaux et des collines. Ce club va tenter de ne pas finir écrasé sous le bulldozer du PSG, ce club qui sent bon le fric, le Qatar et le pot d'échappement de la Porsche Carrera. Allez Les Herbiers!
On n'est pas les petits poussins, on est les mini-poussins.
Des micro-poussins.
Des nano-poussins.
Lui, il complète son album Panini de la Coupe du Monde, comme on complète un herbier dans le fond. C'est Alex Vizorek.
J'adorerais avoir des Panini des herbiers. Eh bien, c'est lancé. Aujourd'hui, je vous fais l'album Panini de mon équipe. Eh bien, c'est une belle équipe.
Ah, c'est une belle équipe.
C'est une belle équipe.
Ouais, j'ai senti ça.
À 17h20, elle n'est pas à Cannes. Et pourtant, elle pourrait mixer toute la nuit, puisque plus personne n'écoute les musiques diffusées. C'est vous, Mélanie Bauer. Bonjour.
Oh, encore un compliment. Bonjour. Tout à l'heure, des reprises d'un indigène monégasque. Je vous laisse deviner.
Très bien. À 17h30, il n'est pas à Cannes non plus. Et pourtant, il est capable d'ennuyer des gens plus qu'un film de Jean-Luc Godard. C'est vous, Guillaume Meurice. Bonjour.
Bonjour, Alex. Bonjour, Charline. Moi, je suis allé au concours Lépine ce matin. Et j'ai interrogé des inventeurs, notamment sur les nouveaux nœuds de cravate.
Si le nœud est bien, c'est la longueur qui n'est pas bonne.
Voilà, comme dirait la jeune mariée.
Ah, c'est élégant. À 17h40, il n'est pas à Cannes. Et pourtant, il aimerait tant avoir une deuxième palme. Ça lui éviterait de nager en rond dans la piscine. C'est le scénariste de Dipan, Monsieur Thomas Bidguin, bonjour.
Mais bonjour, bonjour à tous, bonjour Charline. Et moi je viens vous parler d'un truc, justement je ne suis pas à Cannes, je viens vous parler de distance.
Et je me tourne vers celui qui va participer à l'attractivité de la France Inter. Vous avez d'abord été vendeur sur les marchés, livreur et ventouseur. C'est ce métier qui consiste à réserver des emplacements pour les tournages. Une fois un pied dans le milieu du cinéma, eh bien vous passez devant la caméra. Vous jouez dans Un prophète de Jacques Audiard, aussi dans Rengaine de Rachid Jaini, 96 heures de Frédéric Schoendorfer, puis dans Chouf de Karim Dridi, Les Derniers Parisiens d'Amé et Coué, plus connu sous le nom du groupe La Rumeur, ou encore notamment dans Le Caire Confidentiel de Tariq Salek. Vous êtes, je vous laisse nous l'annoncer, vous êtes...
Je m'appelle Slimane Dazi, je suis ravi d'être là.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, Par Jupiter.
Bienvenue Slimane Dazi dans Par Jupiter. Et aujourd'hui, vous venez nous voir pour un récit, un roman, Don Quichotte, paru chez Don Quichotte, Indigène de la Nation, où vous racontez votre parcours, votre regard sur là où d'où vous venez, la banlieue aussi, comment elle a changé, etc. Cela commence, vous expliquez, vous naissez en 1960, ouais. L'Algérie est encore française, 2 ans plus tard, à l'indépendance, vos parents parents choisissent la nationalité algérienne, parce que votre père s'est engagé dans le processus d'indépendance. Oui. Vous avez le passeport algérien, donc, et ça vous complique la vie, surtout en tant qu'acteur. C'est un point de départ pour votre livre.
Oui, et puis c'est surtout cette absurdité, quoi. Être né avec les droits du sol en 1960.
En France.
Et oui. En France, et puis se retrouver parachuté à faire un dossier de demande de réintégration à la nationalité française. Parce que à deux ans, bon, bah, t'as pas la possibilité de choisir d'opter pour telle ou telle nationalité. Donc voilà, c'est surtout ça que j'ai envie de soulever.
Et qui conditionne beaucoup de choses.
Bah ouais, ça conditionne énormément de choses et surtout énormément de personnes qui eux n'ont pas ma visibilité et qui n'ont pas justement la facilité de pouvoir prendre la parole. Et donc c'est aussi pour eux que j'ai écrit ce.
Il y a un côté tout à fait témoignage. Je vais me permettre de lire un extrait.
Oui, vous en prie.
Vous dites notamment au moment de tourner avec La Rumeur, hein, ce film Les Derniers Parisiens. Vous dites ceux qu'on a vraiment oubliés, c'est nous, les grands frères, la première génération d'enfants d'immigrés, ceux qui ont vécu dans les premières cités et qui ont vu les espoirs partir en fumée, ceux qui ont vu la cam arriver, ceux qui ont vécu dans leur chair l'abandon des banlieues et la détresse des petits frères, ceux qui vivaient la misère parce qu'ils avaient le cul entre deux chaises, parce qu'ils étaient à cheval entre deux terres, ni tout à fait là-bas, ni tout à fait ici. Le grand écart sera été l'histoire de notre vie.
Ouais.
Ça veut dire que le grand frère, c'est une figure qui est assez centrale dans votre récit, dans votre témoignage. C'est le grand frère, c'est celui qui a vu tout partir en couille, en fait.
Bah, le grand frère, c'est celui qui est le témoin de. Je vais pas passer par quatre chemins, qui est le témoin d'un échec politique cuisant depuis que je m'en souviens, donc depuis bien 50 piges, quoi, entre 45 et 50 ans. Et ça, c'est un témoignage et c'est un récit que je me devais de faire avant, parce que je sais pas de quoi il fait demain, donc avant de partir, comme je le cite dans mon roman, tout au début, j'ai fait une attaque, j'ai fait donc voilà, je sais pas ce qui peut m'arriver demain et je me suis dit
il faut que
je l'écrive, il faut que au-delà d'une trace, il faut balancer, quoi, comme vous pouvez balancer à la radio. Voilà, il faut vraiment que je balance ça.
Parce que vous avez vu l'abandon, la mauvaise gestion des politiques, et vous dites aussi, il y a par exemple 14 joueurs de foot de votre centre qui sont morts de la drogue. Vous dites, la CAM nous fut imposée.
Non, il y en a 9 sur les 14.
Ah, d'accord.
Voilà, il y a une photo de 14 personnes, et sur ces 14 personnes, il y en a 9 qui sont partis. Voilà.
La CAM nous fut imposée comme une dictature. Elle était arrivée sournoisement du cœur de Paris pour s'enraciner dans nos banlieues, pourrir nos caves et pour pénétrer dans nos vies. La drogue qui gangrène la cité, ça aussi, sur les années, vous avez vu arriver tout ça ?
Bah, j'ai surtout vu partir, chaque fois, j'ai surtout vu partir des frères du béton. 9 fois sur 10, quand on portait beau, entre 1980, la fin des années 70, et puis 2000, quand on portait beau, c'était pas pour aller faire la noce, c'était pour aller accompagner un proche, un frangin du béton, un cousin. Et c'était pour l'accompagner dans sa dernière demeure, quoi. Alors j'ai pas envie de faire de violon, mais il est temps que on se souvienne de ça, parce que derrière ça a généré beaucoup de choses.
Et vous voulez être positif quand même. Quand vous dites il est temps, ça veut dire que on peut encore reprendre le chemin.
Bah ouais, on peut encore le reprendre, mais il est vraiment super temps, quoi. Il est vraiment, vraiment
super. C'est-à-dire que
quoi.
Indigène de la Nation, le roman Slimane d'Asie, le conseille à, par exemple, à Jean-Louis Borloo, qui s'occupe des banlieues en ce moment.
Ouais, c'est bien qu'il le lise.
Ce serait pas mal qu'il le lise. On va y revenir tout à l'heure. Hein, aussi, vous revenez aussi sur tous ces articles qui vous qualifient de Gabin Métèque. Vous dites en vérité, ce qu'on voit en moi, c'est un type du peuple, certes, mais un Métèque. Point. Voilà où on en est, voilà comme je suis perçue, un métèque, un dur métèque, une gueule patibulaire qu'on n'a pas envie de croiser la nuit. Ce qui nous fait penser à ce livre coécrit par plusieurs actrices noires, à Issa Maïga ou Sonia Roland. Vous pourriez y souscrire. Quand on a son origine fichée sur sa tête, on est cantonné à certains rôles et c'est difficile d'en sortir.
Ouais, c'est difficile, mais bon, il faut essayer de se battre pour éviter les clichés. Et puis, bien heureusement, alors je ne vais pas faire de violon parce qu'il y a Thomas qui est à côté de moi.
Mais
heureusement
bien.
Qu'il y a des gens qui savent écrire et qui savent écrire des caractères de dur, de voyou. Et un caractère de dur, de voyou, c'est pas que la caricature d'une gueule brisée, machin. Un dur, un voyou, ça peut être un. Ben, un petit gars comme lui, quoi.
C'est pour ça que vous avez choisi vos rôles. Vous avez même refusé un Brian De Palma parce qu'on vous étiez catégorisé. Ouais,
c'est pathétique, quoi. C'est...
Vous faites des choix, donc. Slimane Dazy, ça s'appelle Indigène de la Nation. C'est paru aux éditions Don Quichotte et on va y revenir tout à l'heure, notamment sur le passage au Festival de Cannes, car il commence ce soir. Et là, tout de suite, hommage à Morane. Morane, le jazz pour danser sur France Inter. C'est Slimane Dazy, l'acteur, qui est notre invité aujourd'hui dans Par Jupiter, et aussi romancier maintenant, car aux éditions Don Quichotte paraît Indigène de la Nation.
Il hoche la tête.
Ah bah oui, bah écoutez, c'est léché, hein, j'ai lu quelques extraits dans la première partie de l'émission. Indigène de la Nation, donc on peut dire aussi un témoignage de grand frère, notamment, où il raconte son parcours. Alex, pour entourer Slimane.
Eh bien, il y a Mélanie Bauer qui parlera...
Oui, je parle. Je sais parler.
Ah non, j'entends que j'aime bien en plus. C'est pour une fois. Oui, mais je sais qui c'est. Guillaume Meurice, qui est allé au concours Lépine.
Oui, belle invention, Jean.
Et évidemment Thomas Bideck.
S'il vous plaît.
L'info est dans la place.
Il ne faut pas raconter non plus des carabistouilles à nos concitoyens. Hein.
Le journal de presque 17h17.
Moi, je sens que je vais me farcir un petit mot pour le trip. Hein.
Et on commence par les titres.
Avec le décès de la chanteuse belge Morane.
Mais oui, après Johnny, Morane, si ça continue, les Belges les plus connus en fin d'année, ça va être nous deux.
Parlez pas de malheur. Oui. C'est ce soir que le petit club des Herbiers va affronter le PSG en finale de la Coupe de France de football.
Alors, si vous n'êtes pas trop fort en foot, disons que c'est un petit peu comme si Passepartout de Fort Boyard était grippé, avait les yeux bandés et qu'il combattait Teddy Riner.
Et des brèves.
Et des brèves, bien sûr, on m'appelle le Neymar de la brève.
Ah oui, c'est... un peu caché ces derniers temps. Hein. Bon, c'était donc la terrible nouvelle ce matin.
Eh oui, ce matin, on a tous le moral à zéro.
Trop tôt. Là, on a tous envie de dire à la mort ce que Morane avait un jour dit à un tuito.
Oui. Ouvrez les guillemets, on t'encule à sec avec du papier de verre, du tabasco et du filet de citron. Fermez les guillemets.
Ça me rappelle mon premier mariage. Et voilà.
Passons à la politique française.
Mais oui, pour les hommages du 8 mai 45, Emmanuel Macron a ranimé la flamme du soldat inconnu à Paris.
Tandis qu'Édouard Philippe était à Orléans pour saluer la mémoire de Jeanne d'Arc.
Oui, ce qui aurait été plus cohérent, c'est qu'Édouard Philippe soit à Paris parce que c'est un bon soldat et puis il n'est pas très très connu non plus.
Puis pour raviver la flamme, Jeanne d'Arc,
voilà.
C'est bien aussi.
Et ça marche aussi dans l'autre sens.
Emmanuel Macron a déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu en présence de différentes personnalités politiques comme Nicolas Sarkozy, Florence Parly ou Gérard Larcher.
Jean-Vincent Placé n'était pas...
Bah non, pourquoi?
Bah quand il faut déposer une gerbe, c'est jamais le dernier.
Et puis le président a serré la main d'anciens combattants.
Oui, et l'un d'eux en a profité pour glisser un petit conseil au président. Tendez bien l'oreille, mais je vous dirai la phrase exacte après.
Soyez très ferme, c'est toujours la politique.
Soyez très ferme avec ces gauchos de la politique qui veulent que foutre la merde.
Ah,
alors évidemment, il faudrait pas fléchir face à ces salauds de cheminots payés grassement par l'État.
Comme d'autres professions. Hein.
Comme les militaires, par exemple. Alors on espère que ce monsieur était moins planqué quand il était sur le front.
Sans transition, la grève à la SNCF, Guillaume Pépi annonce une indemnisation forte des usagers.
Une indemnisation forte, comme vous dites. Alors là, si vous avez subi une annulation de train, attendez-vous à recevoir prochainement dans votre boîte aux lettres un sandwich triangle poulet crudité.
International. Melania Trump a critiqué l'utilisation négative des réseaux sociaux et cela devant son mari.
Oui, comme si Carla Bruni s'en prenait à la corruption devant le sien.
Société à présent à Paris, le gérant d'une supérette Franprix, lassé de se faire insulter, a déclaré son magasin interdit aux racistes.
Et le problème, c'est que les racistes, contrairement aux noirs, ça ne se voit pas à leur tête.
Effectivement.
Oui, et heureusement que le gars n'était pas gérant du Franprix à Béziers. Sinon, son chiffre d'affaires aurait été divisé en deux.
Sport avec la Coupe de France. France, le maire des Herbiers accorde un jour de congé aux 530 agents municipaux.
Oui, ça ne changera pas grand-chose pour eux.
Et des brèves.
Juste après avoir descendu ça. Mais
oui, c'est pour pas savoir où on est.
Il ne peut pas s'en empêcher.
Oui, bref, en Chine, un passager ouvre la porte de l'avion pour prendre l'air.
Heureusement, l'avion venait juste d'atterrir.
Oui, en tout cas, ce ne serait pas une bonne idée que ce type-là voyage en sous-marin.
Et la dernière.
Et la dernière, ce titre merveilleux qui vient de chez nous, évidemment, en Belgique. Une partie des pavés du piétonnier de Bruxelles placée dans le mauvais sens. Donc la révolution n'est pas prête d'arriver chez nous parce que les pavés, on les lance pas, on les place à l'envers.
Merci, le piétonnier Alex. Étant la rue piétonne.
Oui, nous, oui, évidemment. Pas...
Oui, bien sûr.
Voilà, dites, je traduis parce que j'ai l'habitude de me côtoyer.
Au lieu de dire une cook, comme chez nous, vous dites une viennoiserie. Voilà,
parce que c'est
bien.
Plus classe, tout. Alors, simplement.
Une rue piétonne. Merci l'Académie française. Il est 17h26. Sur les antennes de France Inter, mesdames et messieurs. Et c'est Slimane Dazy, notre invité, l'acteur qui vient d'écrire Indigène de la Nation aux éditions Don Quichotte. Et on va aborder avec vous ce premier sujet, car il y aura bientôt un an, en juin 2017, les trois quarts de l'Assemblée étaient renouvelés et 206 députés étaient virés de leur siège. Le magazine Society a eu la bonté de s'inquiéter de ce qu'ils sont devenus. Certains n'arrivent pas à reprendre pied dans la vraie vie. Ils rencontrent des difficultés pour retrouver un vrai boulot chez les vrais gens. Heureusement, il leur reste Pôle emploi.
Nous avons mis au point un nouveau test qui va nous permettre de cerner votre personnalité et vos capacités d'embauche. Tout nouveau. Avez-vous une expérience de secrétaire?
Non.
Avez-vous une formation d'esthéticienne?
Non.
Avez-vous une expérience de coiffeuse visagiste? Dommage. Ça. Avez-vous une quelconque qualification?
Qualification? Non, 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 non.
Les Aristos, un film de Charlotte de Turckheim. Voilà, Society s'est penché sur plusieurs cas de députés qui se sont fait jarter de l'Assemblée et puis qui retrouvent pas de boulot. Certains dépriment un peu, hein, je vous le cache pas, il y a quelques témoignages poignants. Notamment Catherine Lemorton, ex... Non, bah alors, on a moyennement envie de se moquer parce que ça a quand même pas l'air facile.
C'était
même
le nom,
si,
hein,
bon, voilà. Catherine Lemorton, ex-députée PS de Haute-Garonne, qui touche heureusement ses indemnités chômage de députée, mais à 56 ans, elle parvient pas à retrouver du travail. et le réseau politique semble un petit peu la laisser tomber, dont Arnaud Montebourg.
Bah, c'est con, elle n'avait pas voté la loi travail, du coup.
Oui, alors c'est une bonne question.
Donc on peut se moquer du coup là.
Ah oui, donc là c'est bon. Alors c'est vrai que tous ces gens, leur poste dépend aussi du désir de l'électeur, pas forcément du travail qui est bien fait ou pas bien fait, etc. Est-ce que vous avez un petit peu d'empathie vis-à-vis de ces députés qui ne retrouvent pas de boulot ou vous vous dites, bon finalement, je ne vais pas les plaindre?
Non, moi je vais avoir une question, je voudrais savoir s'ils appellent les endives ou les chicons.
Et ça, on sent que vous êtes sur les vraies questions.
Il y a de la moquerie, parce que c'est chez nous qu'on dit les chicons.
Non, mais ceux qui connaissent donc actuellement des difficultés d'emploi, donc la vraie vie, ce sont ceux qui se sont fait virer. Donc finalement, comment est-ce qu'on fait pour avoir une assemblée de gens? On a presque envie qu'ils y retournent à l'Assemblée maintenant qu'ils ont vécu ça, non?
Bah,
d'être un peu en prise avec la réalité des choses.
Ouais, et puis qu'ils se fassent remplacer par les autres, qu'ils se fassent lourder, et puis que ça tourne un peu, quoi.
Oui, voilà. C'est une manière de que l'Assemblée soit un peu plus représentative, c'est que ça tourne un peu plus.
Et puis que ce soit un petit peu plus démocratique, on va dire. Mm-hmm.
Vous avez l'air d'en être revenu du politique dans ce que vous racontez sur les banlieues.
Oui.
Sur,
ouais.
Est-ce que justement, quand vous les voyez à la télé, ils vous hérissent le poil ou c'est plutôt à vous dire, bon, bah, peut-être on va avoir un nouveau visage qui va peut-être lui faire quelque chose enfin?
Ouais. Alors je vais vous répondre très sincèrement, je ne les vois pas à la télé puisque je n'ai pas la télé. Et,
vous écoutez France Inter, j'imagine.
Ouais, ça m'arrive. Mais en tout cas, très honnêtement, ouais, les politiques, c'est un truc qui me fait fuir. Malheureusement, c'est un truc qui me fait fuir parce que ça pue l'hypocrisie, ça pue les promesses qui sont jamais tenues.
Qui vous a échaudé particulièrement
en politique?
Ouais.
Bah, vous voulez que je vous le dise?
Ouais. Enfin, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire
un secret de Polichinelle en même temps. Moi, c'est la génération Mitterrand, ça a été une catastrophe.
Pour vous en parlez d'ailleurs dans le livre.
Catastrophe. Ouais.
Pour vous, c'est eux qui ont lâché l'affaire.
Parce qu'ils ont donné l'espoir aussi.
C'est
au
le début de la fin.
Ouais, bah, il était beau l'espoir derrière. Hein. C'est la carotte et le bâton. Hein. Ouais. Je voudrais pas citer qui que ce soit, mais c'était ça puait la cannelle quand même.
Et on comprend pourquoi quand on vous lit Slimane Dazy dans Indigène de la Nation, édition de Quijote, vous avez des raisons tout à fait. Et je vous renvoie à son ouvrage. Mélanie Bauer, oui. Tiens, à 17h30, vous allez nous parler d'un révolté aussi?
Oui, alors si je vous dis Léo Ferré, vous pensez anarchiste, sensuel, c'est extra, chevelure improbable et bien sûr Brel Brassens Ferré, la pierre angulaire de la chanson française. En ces temps de révolte et de commémoration, avec Ferré, on pense aussi mai 68, la lutte contre la censure, un symbole de liberté. Mais pour moi, Ferré, c'est surtout un personnage terrifiant de mon enfance. Rien que ses pochettes de 10 me faisaient trembler. Les écorchés, c'est vrai, on ne les comprend pas vraiment. Quand on est petit, il faut se prendre quelques pavés hein, pour supporter la poésie. Ou bien, il faut les découvrir autrement. La semaine dernière est sortie une compilation idéale pour réapprendre Léo Ferré. Son titre, La Souterraine, 7 extras, 13 reprises. Grâce à ces nouvelles versions, les chansons s'éclairent, la peur de cette virilité écrasante de Ferré s'efface et l'on comprend mieux ce Gavroche, sa sensibilité quand il est interprété avec espièglerie, notamment par une femme avec une voix d'enfant.
Je suis ni l'œillet ni la verveine, je ne suis que la mauvaise graine. Ils m'ont semé comme un caillou sur un chemin en rien du tout. Même les corbeaux me font la gueule. Leur pauvre gueule qui s'en va toute seule. Quand y'a plus rien dans la friche qui est qui fait froid et qui fait gris.
Maud Optaline, la mauvaise graine. En gommant l'aspect dramatique du son chanson, la compilation du label La Souterraine nous permet de ne pas être écrasé par le charisme de Ferré, de trouver une légèreté dans sa poésie. On doit ce beau travail à quelques chevelus trentenaires. Émile Saurin de Forever Pavotte, hein, vous connaissez ça par cœur, érudit de la musique et amateur de bandes originales de films des années 60 et 70, mais aussi à deux autres poilus de la grande guerre de la musique artisanale. Julien Gasque et Benjamin Glibert, que l'on connaît sur France Inter, bien sûr, grâce à Aqua Serge. Ensemble, ils ont assuré, et je pèse mes mots, la direction artistique de cet album avec la bénédiction de Mathieu Ferré, le fils de Léo. Le résultat est aérien, tendre et mystérieux.
Si tu t'en vas.
si tu t'en vas, à quoi sert jouer ? Car tout est affaire de décor. On peut abîmer une chanson en l'interprétant mal, en lui infligeant du mauvais goût, de sales instruments, mais la voix de son créateur, l'intention de la chanson ne peut jamais disparaître. Quand on a un chef-d'œuvre et qu'à l'inverse, on le traite avec respect, comme le fait Léo Ferré, par exemple, avec Aragon, on touche plusieurs générations au cœur. Est-ce ainsi que les hommes vivent ? Cette chanson mille fois reprise continue de rebondir car le temps reste déraisonnable et que l'on prend toujours les loups pour des chiens.
Est-ce ainsi que les âmes vivent ? Et leur baiser au loin les
Voilà, je terminerai avec un titre de l'été 68, un énorme câlin à tous les étudiants qui en ce moment se font gazer pour simplement vouloir user de leur droit légitime de manifester. Un classique du drapeau noir, brandi sur les barricades, une reprise funky de Les Villards, les anarchistes.
Il n'y en a pas sur 100, et pourtant, ils existent. La plupart espagnols, allez savoir pourquoi. Qu'en Espagne, on ne les comprend pas. Les anarchistes, ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Dans le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent. Jamais que lorsque on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois pour que dalle et pourquoi. Avec l'amour au poing sur la table ou sur rien. Avec l'air entêté qui fait le sang versé. Ils ont frappé si fort, tu peux frapper encore. Y'en a pas un sur 100. Et s'il faut commencer par des coups de pied au cul, faudrait pas oublier l'exaltation dans la rue. Les anarchistes, ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie. Des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier qu'il y en a pas un sur ça. Et pourtant ils existent. Et qui tiennent bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes.
Les Villards. Les anarchistes, reprise de Ferré. Sur cette compilation, La Souterraine, c'est extra, 13 reprises de Léo Ferré, c'est sorti le 27 là, dernier. Là. C'est ouais. Vraiment, il y a
c'est vachement chouette.
Je crois que c'est une première dans cette émission. Il y a eu 2 chansons françaises sur les 2 titres.
Je crois que ça n'est jamais arrivé, j'ai envie de chialer.
C'est vrai, on a passé Morane en début d'émission, c'est votre journée. C'est
j'arrête sur une victoire. Merci à tous.
Restez, mais non, restez Alex, car avec Slimane Dazy, on va reparler de Cannes et notamment à travers son ouvrage Indigène de la Nation aux éditions Don Quichotte. Slimane Dazy qui nous fait l'amitié d'être là avec nous aujourd'hui, un jour férié où nous sommes en direct. Il est 17h36 sur France Inter. Vous êtes bloqué dans votre voiture en rentrant d'un long week-end ou vous êtes juste au milieu d'un très 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 long week-end.
C'est ça, ouais. On est mardi, c'est le très long week-end.
Je suis sûre qu'il y a des gens, ils rentrent aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent pas faire 2 ponts. Eh oui, non mais attendez, vous croyez qu'on a tous les moyens de faire 2 ponts?
Il y a les Didi qui étaient comme ça, on a pu en faire qu'un.
Bon, allez, c'est Guillaume Meurice parce qu'il vaut mieux en arriver là.
Eh bien les amis, on vit à crédit écologiquement en France depuis début mai, on a appris ça il y a quelques jours. On a déjà consommé plus que les ressources naturelles peuvent produire. Alors en termes de LSD par exemple, Mélanie Bauer en est à 2,5 francs. Mais bon, comme on a bâti notre modèle économique sur la croissance, il faut bien continuer à vendre des trucs et donc à innover. Et à la Foire de Paris, il y a le fameux concours Lépine. Et ça, je vais vous dire, j'y vais tous les ans pour célébrer le génie français à créer l'indispensable de demain, dont on avait pourtant bien réussi à se passer depuis aujourd'hui. Et cette année, c'est un grand cru, les amis. Le génie français, vous le savez, on le retrouve dans tous les domaines. D'abord, bien évidemment, le barbecue. Ah, ça, c'est une spécialité française, avec la délation en temps de guerre et la lâcheté en temps de paix. Et quel est...
Ou l'inverse,
ça marche dans les deux sens. Et quel est le peuple capable de faire rougir la NASA avec un barbecue? C'est nous, le barbecue révolutionnaire.
En fait, il est révolutionnaire parce que c'est l'unique appareil qui sache faire. C'est le principe, je vous le montre en même temps. À l'aide d'une poignée, on a 7 crans. Et chaque cran, on fait monter le plateau de chauffe, que ce soit la grille, la rôtissoire ou la plancha, de 3 cm.
Ça n'existait pas du tout avant ça?
Ah, pas du tout. Le système de bras de levier, c'est unique. Mais ce n'est pas le bras de levier qui est unique, ce qui est beau. Mais il y a très peu de gens qui le comprennent, sauf ceux qui ont vraiment... On a un mécanisme, c'est un double pantographe qui monte l'un sur l'autre.
C'est un barbecue à double pantographe.
Voilà, un double pantographe.
Et alors, on est fiers d'être français ou pas, hein? Qui c'est qui l'a inventé, le barbecue à double pantographe? On n'a toujours pas de vaccin contre le sida, mais on s'est fait griller des merguez au poil de cul. Cocorico, Francis Bach, comme dirait l'autre. Autre domaine où on se défend pas mal en France, l'apéro, avec un nouvel appareil de cuisson nomade.
Ouais, c'est un appareil de cuisson nomade. On avait fait un constat assez simple avec ma femme, c'est que quand on voulait faire des bouchées chaudes à l'apéro, eh ben, on était obligé d'aller au four. Et il y a une vieille expression qui dit qu'on peut pas être au four et au moulin. Donc j'ai inventé l'appareil qui permet d'être au four et à l'apéro en même temps, tout simplement.
C'est de la cuisson nomade.
C'est de la cuisson nomade.
Qu'est-ce qu'il y a alors? Faut moins les malins, les autres pays. Regardez les Belges avec leur cuisson statique de ringard. Hey, on est en 2008, les gars, d'accord? 2008 ringard. Autre domaine où on est bien balèze en France, l'élégance, la mode. Ah bah, ça se voit pas forcément sur moi, mais regardez, Bidoguin, il est formidable. Alors attention, j'ai une invention à base de nœuds de cravate.
On propose un nœud déjà réalisé en différents designs et matières.
C'est une sorte de faux nœud de cravate.
C'est un vrai faux nœud de cravate.
Ah voilà, oui.
Et là, oui, en 15 secondes, c'est fait. Il y a également à l'arrière, il y a un diffuseur de parfum d'intégré. Les gens pourront changer avec des cartouches de parfum leur parfum à l'intérieur.
C'est un vrai faux nœud de cravate avec diffuseur de parfum intégré.
Oui.
On va pas être magnifique avec ça, ça déconne. Voilà, le vrai faux nœud de cravate avec parfum intégré. Alors la vraie question qui se pose toujours dans ces cas-là, c'est comment on faisait avant. Ça paraît fou, hein, voilà, avec nos vrais nœuds de cravate qui puent. Regardez Bidoguin, il dope du nœud de cravate régulièrement. Tout ça, c'est fini. Alors évidemment, quand on invente le vrai faux nœud de cravate avec parfum intégré, normalement, on ne s'arrête pas là. On est sur une bonne lancée et effectivement, il ne s'est pas arrêté là.
Le nœud de cravate à l'avant, il y aura différentes plaquettes pour changer son style de décoration avec le même nœud de cravate. Ce même nœud de cravate peut être connecté.
C'est-à-dire un nœud connecté.
Ça consiste à avoir un smartphone, des applications qui marcheront en Bluetooth pour envoyer sur cette plaquette que je vous parlais à l'instant des petites vidéos. Et dans cette petite vidéo, vous pouvez imaginer le scénario suivant, un homme, une femme au restaurant pour la Saint-Valentin par exemple. Et l'homme avec son smartphone pour envoyer une petite vidéo représentant un cœur qui va clignoter.
Qui va clignoter sur son nœud de cravate.
Oui.
Oh putain, alors là, je sais pas. Mais un nœud clignotant. Un nœud de cravate, je veux dire, bien évidemment, qu'il n'y ait pas de confusion. Si vous ne gagnez pas des points dans votre dîner de Saint-Valentin avec ça, là, on est dans le tuning de cravate, hein, purement. Là, tu finis par mettre des jantalus sur ton nœud de cravate. Et je ne dis pas ça à la légère, parce que le nœud de cravate est en quelle matière?
Du vrai carbone, du vrai Kevlar. Ah,
bah, un nœud de cravate en Kevlar, c'est quand même hyper classe.
Et oui, bah, vous en avez un là, vous en avez un autre ici, vous en avez un là. Petit détail, des nœuds peints à des couleurs de voiture.
Voilà, on peut avoir le nœud de cravate assorti à sa bagnole.
Exactement. Et dans les prototypes, il y avait deux prototypes aux couleurs des Bugatti Veyron et Giron.
Oh là 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 là, un nœud de cravate assorti à ta Bugatti, j'ai tellement hâte. Ah, bah ouais, ce serait plutôt aux couleurs du RERC, mais j'ai hâte quand même. Alors, on n'a pas encore le prix parce que pour l'instant, ce sont des prototypes. Hein. C'est pour ça que j'ai pas pu vous en rapporter concrètement. Mais je peux d'ores et déjà vous parler de mon préféré. C'est le combo Kevlar connecté avec écran. Ça peut servir où, par exemple?
Ça peut servir également pour les entreprises. En entreprise, on peut très bien imaginer quelqu'un qui travaille dans une banque ou je ne sais où, mais où il y a le logo qui pourrait être affiché. Et en sortant du travail, son smartphone, donc, il coupe son logo et il devient neutre dans la rue.
Et on peut imaginer une réunion des patrons du CAC 40 avec chacun un petit nœud de cravate avec un message différent.
On peut l'imaginer.
Oh là là, ben alors ça va être magnifique. Moi, j'ai vraiment hâte de ce progrès. Alors, le problème, c'est qu'avec les patrons du CAC 40, ils vont tous avoir un nœud de cravate avec Macron, avec un cœur qui clignote. Ça va faire ton sur ton. On aura droit à un concours de clignotants au dîner du siècle. Mais quand même, on avance. Alors, évidemment, cette invention a gagné au concours Lépine. Ah, il est champion. Alors, attendez, parce que le seul problème, c'est qu'en discutant avec tout le monde ce matin, tout le monde a gagné, en fait, au concours Lépine. Ils m'ont tous dit qu'ils avaient gagné. Parce que j'aurais pu vous parler du rouleau à pâtisserie tout en un, de la poignée à savon antidérapante, ou de la tâche l'attache bracelet, même si Charline m'a formellement interdit de me moquer de l'attache bracelet parce qu'elle s'en sert. Bon, enfin, tout ça pour dire, ils ont tous gagné. Alors, j'ai demandé à un gagnant, pas de la merde, attention, il a inventé une bouteille avec trois goulots.
Je suis très fier d'avoir eu la médaille d'argent.
Alors, j'ai l'impression que tout le monde a gagné au concours Lépine cette année.
Alors, non. Alors, il y a différentes médailles.
Ah, voilà.
Il y a différentes médailles. Moi, j'ai eu la médaille d'argent.
Vous n'êtes pas le seul à avoir eu la médaille d'argent.
La médaille d'argent, on est une bonne trentaine à l'avoir eu.
Et la médaille d'or aussi.
Médaille d'or, une trentaine aussi.
Oui. Mais médaille de bronze.
Une trentaine aussi.
Voilà. C'est l'école des fans, hein, le concours Lépine. 90 médailles pour 5 catégories, c'est pas mal. Ça incite à la consommation. Avec ça, on n'est pas prêt de rembourser notre crédit à la nature. Faudra pas s'étonner quand elle déposera le bilan de l'humanité.
Guillaume Meurice, merci. À 17h43, nous sommes en direct sur France Inter. Par Jupiter, l'acteur Slimane Dazy est notre invité. Et ce nœud de cravate parfumé Bluetooth sera très pratique à partir de ce soir. Car à partir de ce soir, on va en bouffer à tous les repas du Festival de Cannes. Même quand on aime le cinéma, est-ce qu'on a vraiment envie d'entendre parler des films qu'on ne pourra voir que dans 8 mois ? Mediapart a d'ailleurs décidé de n'y consacrer aucun moyen. Ça fait 3 ans qu'ils n'y vont pas, ils ont réglé le problème. Pourtant, n'oublions pas que le Festival de Cannes n'existerait pas sans la CGT qui l'a confondé. Et ça, certains l'oublient, écoutez.
Ah, un merveilleux Festival de Cannes. Hein ? Je voudrais quand même terminer par un petit coup de gueule. Oui. Un cri de colère pour mes amis les intermittents du spectacle. Il y en a marre, les gars. Hein ? Vous commencez à nous les brouter menus, d'accord ? Au début, c'était amusant, mais maintenant, ça suffit, ok ? Vous savez combien ça coûte un festival comme celui-là ? Alors ça sert à rien de venir tout gâcher avec vos trompettes et vos banderoles. Hein ?
C'est évidemment Monsieur Manhattan, Benoît Poulvorde. Slimane Dazy, vous racontez le tourbillon que vous avez vécu au moment de la sélection d'Un prophète à Cannes. Thomas Bideguin peut témoigner puisqu'il a coécrit le scénario avec Jacques Audiard. Donc dans Indigène de la Nation, vous racontez à ce moment-là, j'eus l'impression d'avoir gagné la Coupe du Monde. Vous racontez que vous découvrez le film au moment de la projection à Cannes, c'est exact, que Tarantino est dans la salle, qu'il se penche vers vous, il mesure 2 mètres, vous dites, pour me glisser à l'oreille, you're the boss man. Et d'un seul coup, toutes les portes s'ouvraient, jamais je n'avais connu cela de ma vie, on transpirait le champagne, vous racontez, vous dites, ensuite vous rentrez à Paris, je ne payais pas un verre de tout l'été, partout où j'allais, l'addition était déjà réglée, et puis l'automne arriva, la sortie du film, 3 petits points, je vous laisse compléter sur cette idée que parfois ça va presque trop vite, trop fort, quand on met le pied dans un énorme succès.
Ouais. Et pourtant, moi, j'étais déjà échaudé, quoi. Je veux dire, je suis.
Fallait pas vous la faire à l'époque.
Non, mais c'est pas ça. C'est que je suis pas un jeune comédien qui sort de l'école de théâtre ou du cours Florent. J'ai 42 piges. Non, qu'est-ce que je dis ? Je dis des bêtises. J'ai 49 ans. Mm-hmm. J'ai 2 gamines, dont une de quasi 19 ans à cette époque. Et donc, malgré tout, il y a le vide qui s'installe et c'est vertigineux, quoi. Ça fait flipper, surtout quand tu vois que t'as les potes à côté, donc t'es content pour eux, mais ça n'empêche que toi, t'as ce pincement au bide et tout, et que j'étais obligé de retourner gratter sur les ventouses avec mon frangin, quoi, parce que...
Les ventouses, c'est donc les réservations d'emplacement sur les tournages, etc. Voilà.
Bon, j'étais le troisième œil du boss, hein, qui est mon frère, donc c'est vrai que j'avais une place un petit peu de privilégié.
Vous racontez qu'il faut à peu près un an pour que ceux qui vous ont vu au Festival de Cannes ou qui ont vu Un prophète commencent à écrire des choses et repensent à vous et qu'il y ait des rôles qui arrivent. Exactement. Thomas Bideguin, vous avez vécu ça avec Slimane Dazy dans la même équipe.
Absolument, on était sur le tapis rouge ensemble, on était un petit paquet. C'était une soirée quand même, c'était un souvenir fou. Vous demandez à quoi ça sert Cannes, à quoi ça sert d'aller voir, de parler des films qui sortent dans 6 mois ou je sais pas quoi, ça sert à célébrer quand même ce que c'est que le cinéma et cette soirée-là de Cannes. Il y a des films, après ça marche pas pareil pour tous les films, moi j'en ai écrit pas mal, t'as tourné aussi dans beaucoup de trucs Slimane, et il y a des films où tout le monde monte d'un cran, ou qui font avancer tout le monde d'une case. Un prophète c'était ça, c'était
écrit, c'était dans le but qu'on avait au départ, dans le projet, c'était de faire monter tout le monde d'un cran. Et du coup, effectivement, on était tous là, il y avait Tahar, Reda Kateb, Slimane, Jean-Mi,
on était Jean-Philippe Pritchi, il y avait Abdel Raouf d'Afri.
Vous n'avez pas fait tous les remerciements,
mais c'était pas ça, mais ma pomme, on est tous montés, moi je suis devenu scénariste avec ça.
Comment vous expliquez que vous êtes là à faire des chroniques dans toutes les émissions de
la santé? C'est ce que dit Slimane, après il y a le creux de la vague. Après, il y a un moment, on touche le fond à un moment, mais je suis pas désespéré.
Et voilà, vous dites, ce marasme dure à près d'un an, le temps qu'arrivent les sollicitations de ceux qui avaient écrit après m'avoir vu dans le film d'Audiard. Je vous laisse découvrir la suite, bien sûr, dans l'ouvrage de Slimane Dazy, qui est aussi très positif, hein, Indigène de la Nation, édition Don Quichotte. C'est le grand frère, le grand frère Arakan, quoi. C'est ça un peu l'histoire.
Mais c'est comme ça qu'ils ont parlé. Reda, c'est comme ça qu'ils parlent de toi.
C'est là que tout a commencé. De toute façon,
c'est clair que l'histoire du grand frère, c'est pas quelque chose que j'ai inventé parce que je suis le premier garçon d'une famille de 9 enfants. Mmh. J'ai une sœur aînée et moi je suis le premier garçon.
Mais c'est au propre comme au figuré.
C'est au propre comme au figuré. Mmh. Donc après, moi, ce qui m'arrive, c'est magique, c'est génial et en même temps, c'est douloureux et vertigineux. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours travaillé sans filet. Mmh. J'y vais, je bosse aujourd'hui et puis demain c'est un autre jour.
Faut être solide. Ouais.
Et malheureusement, ça m'a vraiment heurté, quoi. Mmh. C'est une pige. J'ai dit c'est pas pour moi, quoi. C'était pas pour moi. Et finalement.
Bien sûr, on veut pas se priver de vous au cinéma, Slimane Dazy, attention. Et à côté de vous, donc Thomas Bideguin, le scénariste et aussi chroniqueur dans cette émission.
Eh oui. Qu'est-ce que je vous dise ? On en est réduit à ça et donc voilà, c'est à moi. Et je reviens avec les beaux jours. Eh oui, avec cette moiteur qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Et aussi backstage dans les petites villes après le spectacle de Vizorek. Et oui, parce qu'il fait chaud à Paris. Oui, il fait tellement chaud à Paris que les Black Blocs doivent aider les techniciens de Radio France à rouler en décapotable. Il fait tellement chaud à Paris que Marlène Schiappa s'évente avec son Becherel. Il fait tellement chaud à Paris qu'Édouard Philippe préfère geler les négociations avec les cheminots. Voilà, il fait tellement chaud à Paris que Gérard Collomb a décidé de distribuer des boissons fraîches aux migrants. Non, ça c'est une blague. Alors voilà. Et donc, oui, voilà. Je reviens une fois de plus pour vous parler de storytelling. De tous ces petits morceaux de fromage grec, d'histoire, qui font la grande feta. La grande feta Macron.
Oh
ouais. Oh oh oh. Ah voilà. Bon, j'ai mis un peu de temps à revenir à cause de ça.
Le mec a fait 10 pannes aussi, je vous le rappelle.
À frire. Donc j'ai mis du temps à revenir parce que justement le thème du jour dans le monde du storytelling, c'est la distance. Parce que quand on écrit une distance, on s'interroge toujours sur la distance qu'on veut garder par rapport au récit. On va généralement essayer de plonger le spectateur au cœur de l'histoire, dans une stratégie immersive, pour qu'il n'ait pas le temps de penser, pour lui donner l'impression d'être en plein débarquement chez Spielberg dans Le Soldat Ryan, ou qu'il puisse croire chez Stéphane Brisé que Vincent Lindon est un prolétaire, un pur, qui met son cœur dans la bataille et se démène pour pas qu'on délocalise la brasserie Lippe. C'est ce qui se passe aussi, c'est le problème de distance quand on danse le slow. On veut réduire la distance et ça marche. Dreams are my reality. Ouais, voilà, la vôtre aussi. Donc voilà, mais il y a un autre type d'histoire pour lesquelles on va au contraire chercher à marquer une distance avec le spectateur en modifiant le point de vue, en développant une métaphore ou en ajoutant une voix off. On va chercher à créer de la distance pour privilégier la compréhension, pour gagner en sens et en clarté. C'est ce que fait Montesquieu dans les Lettres persanes, qu'on a bien pillé d'ailleurs en écrivant Dipane. Et donc voilà, quand il fait observer notre monde par un œil étranger. Et si ça a marché sous l'Ancien Régime, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas sous le Nouveau. Et donc c'est ce qu'a compris Emmanuel Macron quand il observe la grève des cheminots, ou celle d'Air France, ou les manifs du 1er mai, ou celle de Ruffin, depuis les États-Unis ou l'Australie. Il décide de raconter l'histoire en y mettant de la distance. Voilà, ce qu'il nous dit, c'est que lui, il est en recherche de sens. Lui, il s'occupe de la planète, il s'occupe du climat, il s'occupe de la paix dans le monde. Il ne va pas pourrir la grandeur de la France pour des histoires de 50 balles par-ci ou 10 balles par-là. Non, il a de la hauteur, il a de la distance. Et c'est comme ça que, avant de parler des cheminots, le JT présente des images des petites joutes physiques entre notre président et celui des États-Unis. Ces petits duels que les experts du langage corporel comparent aux exercices de dominance masculine chez les primates. En tout cas, nous, en France, ici, on est bien content que ça soit notre babouin qui ait gagné. Et puis, dans l'élan, justement, comme il est là, il sent que ça marche, il annonce que les migrants fiscaux pourront revenir et que c'est bon et que Gérard Collomb n'enverra pas les flics vandaliser leur tente, boulevard de la Chapelle. Et puis aussi, dès son retour, il dit qu'il s'occupera du problème des prolos puisqu'il ira au Festival de Cannes dîner avec Vincent Lindon. Et donc, voilà, c'est pas compliqué. Et c'est comme ça, et les médias seront ravis, voilà. On a du mal à voir si le modèle pour Macron, là, c'est De Gaulle qui part à Londres en 40 ou De Gaulle qui part à Baden-Baden en 68. C'est comme ça, la distance. Des fois, ça marche et des fois, ça ressemble un peu trop à de la fuite. Ça marche, ça marche pas. Ça marche, ça marche pas. C'est comme ça, Macron. Ça marche pas. On a cru que c'était comme les guirlandes de Noël. Ça marche pas. Et puis non, en fait, c'est plutôt comme un clignotant, mais qui indiquerait tout le temps un virage vers la droite. Voilà, donc Édouard Philippe essaye aussi, lui, le même truc. Au lieu de partir en Nouvelle-Calédonie, il se déplace dans l'Orne avec tout son orchestre. Il crée de la distance, mais c'est pour chercher de la proximité. Donc là, évidemment, ça ne marche pas. Non, pourtant, il est touchant, Édouard Philippe, avec sa volonté de faire comme le patron, lui, avec son tout petit lance-pierre. On l'aime bien comme ça, on ne voudrait pas que ça grandisse. En 1937, King Vidor réalise Stella Dallas. C'est un film qui raconte l'histoire d'une fille de mineur, qui est jouée par Barbara Stanwyck, et qui essaye de s'élever dans la société en épousant un type de la haute. Mais elle, qui est une indécrottable prolo, avec ses tenues extravagantes et sa voix qui parle toujours trop fort, elle n'arrive pas à se faire accepter dans ce monde. Sa fille a honte d'elle. C'est ça que raconte le film. Et sa fille finit par épouser un beau type riche qui joue au polo. Et Stella, sa mère, bien sûr, elle n'est pas invitée au mariage. Et il pleut, elle est dehors dans la rue. Et par la fenêtre, elle assiste à la cérémonie. Elle est là, à distance, il pleut sur sa mise en pli, il y a un policier qui vient, qui lui demande de circuler, et elle s'éloigne et disparaît dans la nuit, sous l'averse. Et ben, parfois, on se sent un peu comme Stella Dallas, devant cette distance de classe. On regarde dehors, et c'est pas certain qu'il fasse si beau que ça à Paris.
Merci Thomas Bideguin. Oh, et là, et ouais, ça c'est le scénariste qui donne une leçon à tout le monde, bien sûr.
C'est un peu long en même temps, non?
Pour écouter.
Merci.
Il y a
un contre-sujet, il y a un sujet 3 qui est en train de se monter. Qu'est-ce qui se passe, Slimane Dazi?
Il y a ça dans Mirage de la vie, mais de Stella Dallas, c'est King Vidor qui invente ce plan qui va être repris 1000 fois de quelqu'un qui est dehors, il pleut et il regarde quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et là, la distance crée de la proximité.
C'est possible. C'est beau ce que vous dites.
C'est possible.
Thomas Bideguin, merci beaucoup Thomas. Il nous reste une petite minute, Alex, pour demander à Slimane Dazi, est-ce que vous êtes plutôt les Herbiers ou PSG?
Ah oui.
Eh bien, je vais surprendre tout le monde, je suis les Herbiers.
Ouais.
Parce que vous êtes supporter du PSG,
ouais,
de l'Omblat
ouais,
au
bien
départ.
Sûr, bien sûr, bien ouais. sûr. En tout cas, je ne supporte pas l'OM.
Voilà, ça c'est
parisien, quoi.
C'est marrant, ah, oui. L'OM va soutenir la Vendée et les
finale
Herbiers.
En finale de l'Europa League, vous allez soutenir l'OM ou pas?
Ah ouais, c'est pas le championnat de France.
Ah ok, non, mais, non, mais les vrais, ils sont même pour les défaites de l'OM.
Ouais,
ah
ouais, je suis un vrai supporter de Paris. Mais
de la France.
Oui, mais je suis pas un extrémiste non plus. Hein.
Je suis comme vous.
C'est un peu long, non? Allez les Herbiers.
Pas parce que vous comprenez pas les sujets que quand vous parlez des disques jockey finlandais.
Slimane Dazi, revenons à votre métier premier, la comédie.
En fin d'émission, on propose un sketch à l'invité, il découvre. Ah.
Mais
vous allez rire. Vous allez jouer avec Thomas Bideguin. Attention, vous êtes tous les deux présentateurs de la montée des marches du Festival de Cannes ce soir. Guillaume Meurice est au pied des marches en train d'essayer d'attraper les actrices et les gens connus. On se rend tout de suite à l'ouverture de ce 71e Festival de Cannes.
Eh oui ! Glamour, faste, paillettes, nous voilà à Cannes.
Vous avez oublié le cinéma dans votre description.
Ah là, oui, bon, le cinéma, cet art merveilleux qui met en lumière des inégalités sociales.
C'est ça.
Oui, enfin, pour nous réunir autour de petits fours et de champagne.
Je propose qu'on retrouve notre envoyé spécial au pied des marches.
Oui, alors César, vous m'entendez?
Oui, je vous entends parfaitement.
C'est marrant qu'il s'appelle César.
Pourquoi?
Bah, c'est le cinéma, le César.
Ah oui, je vois, le Fouquet's. Vous êtes là, César? Vous avez un invité?
Oui, tout à fait, je suis en direct avec Kimberly Starr.
Jamais entendu.
Oui, enfin, vous avez dit une vedette, c'est ça?
Attendez, c'est beaucoup mieux, hein, c'est une star, quoi. Hein.
Bonsoir, France Inter.
Alors, Kimberly, vous n'êtes pas une inconnue dans le cinéma?
Ah, disons que j'ai quand même incarné Blanche-Neige.
Formidable, ouais. Formidable. Qui était le producteur?
Disney.
Ouais, ça marche vraiment bien pour vous, hein,
ouais,
Kimberly.
En plus, c'est vraiment un plaisir de travailler tous les jours à Disneyland Paris, quoi.
Ah, d'accord. Écoute, merci, Kimberly. Écoutez, je vais trouver une autre personnalité du cinéma. Hein.
Oui, très bien, oui, c'est ça, oui.
On pourra en profiter pour parler du cinéma iranien.
Ah bon, ils font du cinéma là-bas maintenant?
Évidemment.
Ah ben, je savais pour le caviar, mais...
Je suis en ligne, je suis en ligne.
Ah, oui. César, oui, formidable. Donc vous avez pu accéder à Kate Blanchett?
Non.
À Penelope Cruz?
Non.
À qui alors?
Alors, Monique Ranou.
Ah ben, ça on connaît pas, ça.
C'est aussi ça, Cannes, les découvertes.
Bonsoir.
Alors, Monique, parlez-nous un petit peu de votre carrière.
C'est mon 73e festival de Cannes.
Ah, pourtant, c'est la 71e édition, là.
Ah, pardon.
Donc, voilà. Donc, votre carrière, Monique.
Oh, vous savez, j'ai beaucoup tourné avec les plus grands.
Oui, alors qui, par exemple?
Charal, Jacques Dessange, William Saurin.
Attendez, ça, c'est des marques.
J'ai fait toutes les publicités. Oh, et j'aimerais débuter dans le cinéma.
Oui, alors,
Il est Harvey Weinstein.
Merci, Monique. Je vous repasse la parole, là, excusez-moi.
C'est toujours émouvant, les jeunes actrices qui débutent.
Oui, ouais, effectivement. Donc, moi, je vais y aller parce que là, ils ouvrent le buffet.
Le buffet froid? Non, laissez tomber, c'était une blague. De cinéphile à Donald. Ah, c'est un super bon chroniqueur.
On surprend tous les jours là-bas.
Et je rappelle que France Inter a inauguré aujourd'hui sa web radio cinéma pendant toute la durée du festival, oui. 24 heures sur 24. Oh. Des portraits d'acteurs, des masterclass, des débats, des tables rondes. En veux-tu, en voilà.
Cinéma sur... et non petit four.
Exactement. Ah. Le cinéma et pas les petits fours, c'est sur la web radio. Merci Slimane Dazy. Je rappelle votre ouvrage Indigène de la Nation aux éditions Don Quichotte, le récit d'un grand frère qui tourne pour le cinéma. Merci à vous. Et on laisse le mot de la fin à Morane, qui en 2015 nous annonçait à sa manière l'arrivée de la réclame. Mot de la fin, F-A-I-M.
Tu ne le trouves que chez McDonald's. Petit pain au sésame avec une sauce spéciale. Laitue, fromage et du bœuf 100%. Le Big Mac est unique. Tu le trouves exclusivement chez McDonald's. 100% bœuf, des cornichons, des oignons. C'est tellement con, non, ça vient.